devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour, dans cette émission du 26 juin 2025. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements qui se sont déroulés au lycée Hélène Boucher à Paris, il y a un an, exactement le 6 juin 2024. Le mieux pour commencer, cette émission sur les violences faites aux enfants par l'État, nous allons lire le communiqué des parents, puisque vous êtes dans les studios. On est super contente de pouvoir vous accueillir. Donc, il y a Marie et Sandrine qui sont des parents d'élèves d'Hélène Boucher, entre autres. On verra aussi que les choses se sont beaucoup élargies. Et puis, Alex, tu fais partie de Sud et vous soutenez cette initiative. Donc, voilà, avant de parler avec vous de tout ce qui s'est passé et puis de l'organisation et de la contestation. Qu'il y a de la dénonciation qu'il y a autour de cet événement, mais pas que. On va voir ça ensemble. On va vous lire le communiqué. C'est la meilleure façon de voir où vous en êtes aujourd'hui de cette contestation, de cette critique.
Des parents interpellent le rectorat et la préfecture de police face à l'escalade de la répression policière dans les manifestations lycéennes.
Le jeudi 6 juin 2024. Dans la soirée, chez une quarantaine de parents de lycéens et lycéennes, le téléphone sonne. Le numéro est masqué. On répond. Le cœur se met à battre plus vite. L'appel provient d'un commissariat. Commissariat du 3e, du 5e, du 17e, du 18e ou du 20e. Il annonce à chaque parent la garde à vue de leur enfant et le droit à un avocat. Quelques heures plus tôt, les personnes présentes devant le lycée Hélène Boucher assistent médusées à la sortie de 48 jeunes menottés. Plus de 40 sont mineurs et emmenés dans des paniers à salade au vu de tous. Il et elle voulaient occuper le lycée pour alerter sur la situation à Gaza et refaire de ce lycée un lieu de parole et d'échange. Des rassemblements de parents, lycéennes, lycéens, professeurs s'organisent impromptus devant chaque commissariat pour protester et soutenir. Le 7 juin 2024, le lendemain, la fin de la garde à vue est signifiée. Chaque parent doit aller chercher son enfant. Chaque parent reçoit, stupéfait, bouleversé, le récit de son enfant. Et nous, parents, sonnés, révoltés, nous nous retrouvons le samedi 8 juin devant le lycée Hélène Boucher pour protester, nous réchauffer aussi et commençons à construire ce collectif. Pour tous les lycéens et toutes les lycéennes mineures, l'affaire du 6 juin 2024 sera classée sans suite.
Mais pas pour nous.
Cette expérience singulière et terrifiante nous questionne. Nous commençons à nous intéresser à ce qui se passe devant les lycées, à chaque fois que les élèves souhaitent, pour une raison ou une autre, s'exprimer. Nous avons enquêté, récolté des témoignages et des images. Nous avons demandé à nos enfants de raconter comment se passaient les blocus. Nous avons nous-mêmes observé ces mobilisations et leur répression. Ce que l'on découvre est effarant. Ce qui s'est passé au lycée Hélène Boucher pour nos enfants le 6 juin 2024 n'est pas un cas isolé. C'est une façon de répondre quasi systématique à tout mouvement devant les lycées. Si l'on s'en tient uniquement aux deux dernières années à Paris, nous avons répertorié
16 octobre 2023, lycée Jacques de Cour, charge, coup, utilisation de taser, insultes et humiliations.
22 décembre 2023, lycée Sophie Germain, charge, coup avec matraque, blessure d'élève, insultes et humiliations.
1er février 2024, lycée Voltaire, charge, coup, gaz lacrymogène, nasse de la brave, insultes et humiliations, 20 interpellations, dont au moins 3 lycéens en garde à vue.
15 mars 2024, lycée Balzac, charge, étranglement, coup de matraque, insultes et humiliations, 2 gardes à vue.
23 avril 2024, lycée Colbert, violente interpellation, plaquage au sol, insultes et humiliations, 4 gardes à vue, dont un déferrement.
29 mars 2024, lycée Paul Valéry, charge, gaz à bout portant, plaquage ventral avec genou sur le cou, insultes et humiliations, 2 gardes à vue.
3 mai 2024, lycée Claude Monet, charge, chasse à l'homme, tabassage, gazage, insultes racistes avérées et humiliations, matraquage, LBD, coups donnés à l'intérieur de voitures banalisées de la BRI et de la BAC, 10 interpellations, 7 gardes à vue.
6 juin 2024, lycée Hélène Boucher, LBD et armes de service pointées sur les jeunes, gazage en lieu clos, menottage, insultes et humiliations, propos sexistes et transphobes, 48 interpellations, 48 gardes à vue.
3 décembre 2024, lycée Victor Hugo, coup, charge, fort gazage, strangulation, insultes homophobes, 13 gardes à vue.
19 mars 2025, lycée Diderot, arrestation musclée et 4 gardes à vue.
21 mars 2025, même lycée Diderot, plusieurs charges et gazages, coups multiples, insultes racistes et homophobes, 11 gardes à vue.
Le même jour, un match de foot est organisé, stade de la Grange-Aubel, qui donne lieu à 3 gardes à vue.
Nous pensons à ce qu'ont vécu nos enfants, à ce qu'ils et elles ont vu et entendu, ressenti. Nous l'approchons par leurs récits et les images qui ont circulé.
Celle du lycée Hélène Boucher, publiée il y a 2 semaines. On y voit les lycéens et lycéennes enfermés dans une salle de classe, des policiers braquant leurs armes dessus en hurlant et faisant chuter gratuitement et violemment un jeune au sol.
Celle du lycée Victor Hugo. On y voit de nos yeux 2 compagnies spéciales d'intervention. Et outre les habituels LBD et les gaz lacrymogènes, des policiers qui étranglent des jeunes filles.
Et nous pensons à tous les récits et témoignages qui n'ont pu être recueillis, à tous les faits qui n'ont pu être photographiés ou filmés.
Cette liste d'événements et ces images donnent le vertige. Et pourtant, encore une fois, elles ne concernent que les 2 dernières années scolaires et Paris. Elles sont à compléter pour tout le territoire. Nous sommes conscients que les lycéens et les lycéennes des établissements de l'Est parisien sont touchés par ces pratiques bien après les autres, en particulier ceux des quartiers populaires. Mais c'est notre tour de constater qu'un processus de répression de la jeunesse est à l'œuvre.
Systématiquement, les forces de l'ordre sont dépêchées en surnombre, surarmées, menaçantes et violentes.
Systématiquement, les élèves sont humiliés et insultés.
Systématiquement, des délits sont créés de toutes pièces pour justifier des gardes à vue de 24 heures, parfois plus. Sur les dizaines de jeunes interpellés, mis en garde à vue, privés de liberté et passant au moins une nuit en cellule, 99% sont relâchés sans aucune poursuite. Et les affaires sont classées sans suite, puisqu'il n'y a rien à reprocher aux élèves en question, à part qu'ils et elles se mobilisent.
L'hypothèse du surinvestissement de quelques policiers en roue libre n'est pas de mise. Sur les images de Victor Hugo, on voit au milieu de ce dispositif un haut gradé, commissaire principal et chef de district pour Paris Centre. Il y a une logique, une stratégie mise en œuvre de laquelle participent de fait et la préfecture et le rectorat. Les lycéennes et lycéens feraient-ils peur ? Ces institutions ne défendent pas nos enfants, elles s'organisent pour réprimer dans leur violence leur volonté de se manifester sur l'ordre du monde. Et c'est nous, parents, qui avons peur de ce qu'elles peuvent faire à nos enfants.
Nous ne pouvons pas passer sous silence qu'un chef d'établissement refuse le dialogue avec ses élèves et réponde par la violence.
Nous ne pouvons pas passer sous silence l'appel systématique à des forces de police dont les missions, les équipements et les entraînements ne sont absolument pas adaptés à leur intervention sur les blocus. GSO, Brave M, BAC et aussi parfois Brigade antiterroriste et Canine.
Nous ne pouvons pas passer sous silence l'intrusion de plus en plus systématique de la police à l'intérieur des lieux d'enseignement.
Nous ne pouvons pas passer sous silence qu'un policier pointe son arme de service sur un mineur, a fortiori à l'intérieur d'un établissement scolaire.
Nous ne pouvons pas passer sous silence les violences verbales et physiques assénées aux lycéens et lycéennes sur les blocus.
Nous ne pouvons pas passer sous silence cette systématisation des interpellations et gardes à vue pour des délits inexistants et le fichage des élèves engagés.
Et nous ne pouvons pas taire nos interrogations sur le silence des autorités publiques et de la direction du lycée Hélène Boucher suite à la diffusion d'images qui montrent clairement la violence de la police à l'égard des jeunes à l'intérieur de l'établissement.
Nous refusons que la normalisation de la violence s'imprime dans les esprits. Au regard du caractère systématique de la répression, nous exigeons une audience conjointe auprès du préfet de police de Paris et de la rectrice d'Académie de Paris. En tant que citoyennes, citoyens, nous voulons d'abord leur demander des comptes sur ce qui s'est passé et sur leurs responsabilités respectives. Nous voulons par ailleurs obtenir la garantie que ces faits ne se reproduisent pas ni dans les établissements scolaires ni ailleurs. Nous revendiquons la sanctuarisation des lycées et de leurs parvis. Le rectorat et les chefs d'établissement doivent retrouver et assumer leur mission première de protection et d'éducation de tous les élèves. La répression systématique, policière et judiciaire des mouvements lycéens doit cesser, qu'elle vise les jeunes en raison de l'endroit où ils ou elles vivent, de leurs revendications ou et de leurs opinions. Les jeunes méritent d'être entendus et non réprimés. Le collectif de parents indignés par la répression de mobilisation lycéenne.
On peut d'ores et déjà donner aussi votre contact, parce que il y a très certainement des parents qui seront très intéressés par votre initiative et qui souhaiteront très certainement, sûrement j'espère, la rejoindre. Donc pour vous contacter, il faut me dire collectif PIHB @gmail.com. On redonnera de toute manière ce contact à la fin de l'émission.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a mother breaking.
Donc voilà, vous êtes sur l'actualité des luttes et on va continuer cette émission. Donc là, on vient d'écouter le communiqué qui avait été écrit par les parents des élèves, des lycéens interpellés au mois de juin 2024. Et là, on va poursuivre avec vous et on est vraiment très contente de vous avoir en studio. Marie et Sandrine, vous êtes vous-même parents d'élèves qui se sont fait arrêter ce jour-là. Et vous avez décidé de ne pas en rester là, d'essayer de comprendre cette situation qui a tendance à se systématiser pour essayer de réagir. Comment vous avez initié cette histoire? Comment vous avez décidé, dans un premier temps, peut-être de vous rencontrer et puis de vous demander qu'est-ce qu'on fait, et puis de décider de faire ce communiqué, d'interpeller et de faire une enquête?
Bonjour, merci pour votre invitation à l'émission. Je suis Sandrine. Je commencerai par le début, qui est le 6 juin 2024. Le soir même, dernier message reçu de ma fille sur son action militante qui parle qu'elle est gazée. Il est 19h, l'action a commencé à 18h30. Dernier message qu'on reçoit d'elle, en tant que parent, on décide de se rendre devant l'établissement. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont là, qui nous préviennent de ce qui est en train de se passer. On comprend que la police est à l'intérieur. Et ensuite, au bout d'une heure et demie, on va voir les jeunes sortir, menottés les uns après les autres et être interpellés. À ce moment-là, on reste ensemble, regroupés, puis les connexions commencent à se faire. Sont présentes des personnes qui font partie de collectifs anti-répression, qui ont déjà vécu ce genre de situation, qui tout de suite viennent vers nous. Et ça a été d'une grande aide, d'un grand réconfort. Et tout de suite, on entend parler de la Legal Team. Voilà comment tout ça commence.
Ok. Alors justement, c'est intéressant et important de revenir sur les faits, parce que là, il s'agit d'une prise de parole concernant le soutien à la Palestine, où il y a un génocide en ce moment, et des jeunes qui décident de faire tout simplement de la politique, d'avoir un point de vue sur le monde, et qui décident de le faire savoir. C'est ça le délit, en fait. Et quand on se rend compte, par rapport à ce que tu es en train de raconter, de la réaction de l'État, qui est incroyable, menottage, rentrer dans un lycée, dans un établissement scolaire d'enseignement. Donc là, on voit bien la disproportion totale face à ces deux événements. On demande aux jeunes d'être responsables, de voter à partir de 18 ans, et on leur dénie le fait d'avoir des opinions politiques, de les construire collectivement, de s'organiser. C'est assez impressionnant d'être pris comme ça entre deux idées contradictoires. Pour cette jeunesse, ça doit être un petit peu étonnant. Donc vous avez décidé de vous regrouper.
Oui, je précise qu'ils avaient préparé un tract.
Ouais, en plus.
Qui devait être proposé à l'administration, aux gens qui les recevraient, et qui n'a pas du tout été reçu, ni lu, ni rien.
D'accord, tu veux dire qu'il y avait vraiment une volonté de la part des lycéens de rencontrer la direction.
D'échanger.
Il n'y a pas de dialogue. Il y a moins en moins de dialogue.
Moi, je voudrais préciser par rapport à ce qu'a dit Sandrine sur le fait que je n'étais pas à Paris le 6 juin 2024. Et mon mari m'a préservée de la chose jusqu'au lendemain quand je suis revenue.
Non mais je vois bien que c'est... je crois que les auditeurs peuvent se mettre à la place de parents qui se rendent compte que leurs enfants ont été violentés par l'État qui est censé les protéger. Ça met dans un état de fureur, de colère, d'impuissance, et je comprends tout à fait ton émotion.
Et j'ai été aussi étonnée d'apprendre qu'il y avait eu des rassemblements devant tous les commissariats, qu'il y avait des profs, des parents,
Moi, c'est ça qui m'a donné
l'envie de réagir.
L'envie de réagir, oui. Je ne sais pas pourquoi.
Tout à coup, tant d'émotions.
Et le lendemain matin, le 8 juin, on s'est retrouvés devant Hélène Boucher et c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, où on a écrit un communiqué, on a fait une pétition, je crois me souvenir, et c'est là que ceux qui avaient envie d'aller plus loin se sont retrouvés aidés par toutes les personnes qui étaient là, en fait.
Ouais, à la fois, comme tu disais, le comité anti-répression, les comités anti-répression. Est-ce que vous avez réussi à la fois, j'imagine, c'est un peu ce que tu disais, à récolter les témoignages des lycéens après?
Alors, lors du premier rassemblement qui a eu lieu après la sortie de garde à vue, on a laissé les jeunes se reposer. C'était le soir et le lendemain matin, comme dit Marie, on s'est retrouvés devant Hélène Boucher pour protester parce que tout de suite sont sortis des communiqués de presse qui parlaient que les jeunes avaient été violents, qu'ils avaient tout cassé, etc. Et nous, à ce moment-là, on a entendu les témoignages des jeunes et de toute cette violence subie par la police, ce qui est absolument insoutenable à entendre, qui met dans une grande colère de savoir que ce sont les forces de l'ordre qui devraient être un modèle, qui sont eux-mêmes en train d'humilier et de frapper ces jeunes, qui sont nos enfants. Et à partir de là, effectivement, il était question de ne pas laisser faire. Et du coup, d'écrire des communiqués pour démentir ce qui avait été dit. Du coup, à ce moment-là, on a croisé, il y avait des membres de la LDH, quelques profs qui sont passés. Oui. Les syndicats Sud a été contacté aussi pour écrire des communiqués. Parce que la première des choses était absolument de ramener la vérité sur ce qui avait eu lieu et non pas de laisser ces articles qui faisaient croire à tout plein de mensonges sur ce que les jeunes avaient fait.
Il y a deux choses sur lesquelles je voulais vous interroger. À la fois, quand même, la réaction de la direction, qui est quand même à pointer, hein, et puis à dénoncer cette directrice ou ce directeur qui appelle systématiquement, maintenant de plus en plus, hein, partout dans les lycées, les forces de l'ordre dès qu'il y a une protestation, une manifestation, et quelque part qui encourage, puisqu'elle sait très bien comment les choses vont se dérouler, quoi. Donc, il y avait ça aussi, j'imagine, dans votre volonté d'aller devant Hélène Boucher pour... Et puis, ce que tu disais aussi, Marie, c'est l'importance, on ne s'en rend pas toujours compte, du soutien.
Oui.
Et que c'est ça qui donne de la force. Et du coup, peut-être aussi, le fait que vous soyez, vous, en tant que parent engagé, ça donne de la force à vos enfants. C'est sûr.
Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on le fait. Et puis, c'est intéressant d'être tous, de pas se connaître et de se rencontrer pour cette occasion très exceptionnelle. Ça donne beaucoup de force.
Alors du coup, vous avez décidé de vous réunir et puis de continuer, puisque ça fait un an, hein. Oui, ouais, quand même, ça fait un an que vous êtes en train de réfléchir ensemble et de voir comment vous pouvez réagir. Et ce qui est aussi très intéressant par rapport, quand on lit votre communiqué, c'est que vous n'en restez pas là. C'est-à-dire que vous avez pas fait un communiqué des parents d'Hélène Boucher. Vous avez essayé de faire une enquête pour essayer de comprendre le côté systématique. C'est-à-dire, c'est pas un cas isolé, c'est pas une bavure, c'est pas un flic qui déraille. C'est vraiment une volonté de la part de l'État de faire taire sa jeunesse. Et donc, comment vous avez pratiqué pour faire cette enquête ?
Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui me vient en tête, c'est... A priori, la demande très claire du rectorat au proviseur et l'appel aux forces de l'ordre dès qu'il y a un blocus. Ensuite, par rapport à ça, on a entendu des témoignages comme quoi sur certains établissements, le proviseur faisait le choix de ne pas appeler les forces de l'ordre. Et alors là, tout se passait différemment et il y avait du dialogue entre proviseur et forces de l'ordre. Dans le collectif, on a des personnes qui suivent tous ces mouvements-là depuis un moment. Et nous, suite à ça, on a décidé de se mobiliser les matins où les lycéens faisaient des blocus. Du coup, on s'est nous-mêmes rendus sur place pour voir ce qui était en place, le maillage qui était là. Entre-temps, par rapport au rôle des proviseurs, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a une coupure de dialogue avec les lycéens qui font le choix de faire une mobilisation. En l'occurrence, ce qu'on a vu sur Hélène Boucher, c'est que l'approviseur fait le choix d'aller dialoguer avec les forces de l'ordre et coupure de dialogue avec les élèves. Donc la réponse est purement répressive. D'autre part, nous, ce qu'on redoutait, c'était la double peine, voire la triple peine. Les jeunes se font violenter par la police lors de leur mobilisation. Ils ont une garde à vue en plus de ça. À la sortie, bah, y a le risque de la réaction des parents. Donc nous, on s'est voulu soutenant au maximum. Ensuite, le retour au lycée qui était conditionné par un entretien avec l'approviseur et le risque d'être exclu, de conseil de discipline, etc. Alors qu'à un moment, le côté éducatif se retire complètement pour laisser la place à la police pour intervenir. Et puis quand il s'agit du retour des élèves, bah là, c'est double peine. Du coup, on n'était pas du tout OK là-dessus. Et donc, on s'est intéressé à ce qui se passait dans les autres établissements. Et il y a eu un vrai recul sur, effectivement, cette systématisation de la réponse répressive.
D'une manière générale, ouais.
D'une manière générale, ouais.
Ouais. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est l'ensemble de la société, des organisations politiques, malheureusement, qui font pas tellement exception, qui donnent comme réponse. Ah, bah, quand même, on se rend compte à une misère croissante, un désengagement des services publics, etc., qui donne une réponse répressive uniquement aux réactions qui peuvent être occasionnées par tous ces dysfonctionnements imposés par l'État. Et justement, donc, du coup, j'avais envie, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais de voir un petit peu avec Alex, puisque vous avez contacté les syndicats, hein, normal. D'ailleurs, je vous demanderais bien, juste vite fait, avant, la réaction des profs. Est-ce que vous avez réussi à travailler avec eux sur cette dénonciation? Parce que l'idéal, on va dire, dans un collectif comme celui que vous êtes en train de construire, ce serait qu'il y ait les lycéens, les parents et les professeurs, tous ensemble. Est-ce que vous avez réussi à fabriquer ce mixte?
Alors, pas encore complètement, c'est en chemin. En tout cas, il y a un an, ils ont participé à démentir, notamment en écrivant un communiqué pour dire que les jeunes n'avaient pas fait de dégradation dans l'établissement scolaire. Et dans leur salle des profs, je crois qu'il y avait eu une pétition. Et ils avaient dénoncé le fait que les forces de l'ordre interviennent sans qu'il n'y ait aucune médiation, aucun dialogue.
Pas toujours évident avec les profs, hein, quand même, hein, malheureusement.
Il faut dire aussi que lors de ce rendez-vous avec l'approviseur d'Hélène Boucher, nous a été reproché aux enfants la dégradation de matériel. Et il faut dire aussi que, en fait, pour nous, ça s'est pas, en tout cas pour certains parents, ça s'est pas arrêté à la sortie de la garde à vue, puisque certains lycéens n'ont pas voulu donner les codes de leur téléphone, donc leurs téléphones ont été saisis.
Ah ouais. D'accord.
Et donc, est restitué seulement dans le courant du mois de janvier 2025, je crois, pour la plupart. Ouais. Et à cette occasion, pour tous les enfants mineurs étaient accompagnés d'un des parents. Et moi, il m'a été dit qu'il ne se passait rien parce qu'il n'y avait pas eu de dégradation de matériel. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui nous avait été dit quelques mois plus tôt. Lycée.
En plus, on pourrait tout de suite rajouter que même s'il y avait eu des dégradations, c'est-à-dire quelques chaises renversées, une poubelle, je veux dire que ça justifie en rien les violences que ces enfants ont dû subir. Alors, là, on va passer à Alex. Parce qu'en fait, ce qui est aussi vachement intéressant dans le travail que vous avez effectué, c'est de ne pas en rester aux lycéens, mais de parler de la jeunesse en général. Et on a vu cette année des nouvelles lois qui sont venues aggraver les précédentes concernant la gestion de la délinquance des mineurs et de l'activité des mineurs, puisque dans la délinquance peut tout de suite se mettre la chaise cassée et le blocus devant le lycée, c'est-à-dire une expression politique. Et du coup, Sud, vous avez fait un communiqué, hein, vous avez publié un communiqué, tout à fait récemment d'ailleurs, hein, je le vois, 21-6-2025, quasiment hier, pour prendre position par rapport à cette histoire du traitement de la jeunesse par l'État. C'est assez intéressant parce que vous avez, à juste titre, vous êtes remonté sur les années 2000 et sur les politiques de Sarkozy, puisque c'est bien là aussi que les choses se sont vraiment aggravées, pour dire que ça ne date pas d'hier et que malheureusement, ça fait bien trop longtemps qu'on laisse passer des choses qui sont inacceptables. Et du coup, vous avez voulu revenir sur ce traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vraiment fait ensemble aussi. C'est-à-dire que vous, en tant que collectif, vous prenez en compte cette réalité-là de la violence de l'État sur la jeunesse d'une manière générale. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, Alex de Sud, de ce travail que vous avez fait, pourquoi vous êtes revenu aux années 2000, pourquoi vous avez aussi voulu élargir à la jeunesse en général et pas seulement en rester aux lycéens, qui sont souvent des enfants plutôt plus intégrés?
Oui, alors nous, déjà, on remercie le collectif de nous avoir invités à la conférence de presse qu'ils ont donnée la semaine dernière, parce qu'en fait, ça a relancé chez nous, et c'est pas pour rien, hein, le communiqué, il est sorti le 21 juin, c'est en fait dans la foulée de cette conférence de presse, parce qu'en fait, on a mis en forme des réflexions qui étaient en chantier depuis longtemps dans notre syndicat, et en fait, on trouve que c'est très, très important d'être associé, effectivement, à votre démarche, parce qu'elle converge totalement avec la nôtre. Donc effectivement, nous, on voulait, le Sud Éducation Paris avait publié un communiqué le 7 juin 2024, effectivement, à la suite des violences à Hélène Boucher. Mais c'est vrai que nous, on replace cette violente répression des mouvements lycéens, effectivement, dans un contexte plus global, puisque ce qu'on constate, c'est une criminalisation de la jeunesse depuis le début des années 2000, qu'on peut faire débuter avec la loi Perben en 2002, qui instaure les centres fermés pour des jeunes des 13 ans et qui là culmine avec la loi Attal qui vient de passer en mai 2025, qui est toujours devant le Conseil constitutionnel, il me semble, et qui effectivement revient totalement sur les principes de la justice des mineurs, qui permet la comparution immédiate des 16 ans. Enfin, c'est aberrant.
L'allongement des peines, enfin, c'est un traitement judiciaire. Comme pour des adultes dès l'âge de 16 ans, la possibilité d'enfermer à partir de 13 ans, ce qui est quand même vraiment incroyable, ce sont des enfants, d'être suivis par un juge à partir de 10, enfin, bientôt c'est le berceau là, hein, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins finalement de réactions par rapport à ces nouvelles lois Attal que, par exemple, au moment de Sarkozy, où il y avait eu quand même des bouquins, des articles, quelques réactions, peut-être pas suffisantes, mais en tous les cas, quelques réactions. Et là, beaucoup moins.
En fait, c'est comme si on s'habituait à ce traitement de la jeunesse, à cette criminalisation de la jeunesse, parce qu'effectivement, je trouve qu'il est important, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, bon, déjà, un, il n'y a pas eu de dégradation, et en fait, au moment des blocus, il n'y a jamais de dégradation, c'est des jeunes qui mettent des poubelles devant des portes. Bon. Et quand bien même il y aurait effectivement des dégradations, ce sont des enfants, en fait. Et donc, la justice des mineurs, dont les principes ont été établis en France en 1945, justement, acte qu'on ne peut pas traiter des enfants comme des adultes, même s'ils étaient coupables d'actes criminels, parce que ça peut arriver aussi. Mais donc, effectivement, même face à des crimes les plus graves, ce sont des enfants, on ne peut pas les traiter comme des adultes. Et en ce qui concerne les mouvements lycéens, on est bien loin des crimes, on est dans... Et ça, nous, chez Sud Éducation, c'est quelque chose qui est important pour nous. On est face à de la répression du militantisme politique, parce qu'en plus d'être des enfants légalement, ce sont des militants politiques. Ce sont des militants politiques que l'on réprime. Ce sont des jeunes qui se positionnent. Alors effectivement, Hélène Boucher contre le génocide à Gaza. Ce sont des jeunes qui se positionnent contre les réformes délétères de l'éducation nationale toutes ces dernières années. Ce sont des jeunes qui se mobilisent contre les réformes des retraites. Ce sont des militants politiques. Donc en fait, effectivement, toute cette répression est dans un contexte de criminalisation de la jeunesse et de répression du militantisme politique.
Oui, et puis il s'agit de faire peur, hein, parce qu'on l'a vu, hein, je veux dire, des enfants qui sortent de garde à vue, c'est vraiment aussi une expérience traumatisante, hein, pour n'importe quel enfant de se retrouver 48 heures enfermé avec les propos que vous décrivez, hein, des propos, des insultes, bon, et puis parfois parfois, bien souvent, des violences. Donc, c'est vraiment des expériences. Et qui signifie le « tenez-vous tranquille ». Et le « tenez-vous tranquille » dès le plus jeune âge. Hein, dès le plus jeune âge, dire toute votre vie, il va falloir vous tenir tranquille. Donc c'est pour ça que c'est important, nous adultes, et puis de laisser cet espace aux enfants qui vont construire la société de demain et qui, on l'espère, sera plus égalitaire et plus belle qu'aujourd'hui. Et c'est ça que l'État ne veut surtout pas, puisqu'il a d'autres projets en tête, à vrai dire. Mais alors, je voulais juste te poser une question... Alex, avant de faire une mini pause musicale, c'est aussi quand même qu'on voit, même du côté des profs, qui étaient quand même réputés pour être des gens de gauche, hein, on va dire quand même il y a encore quelques dizaines d'années, on voit qu'il y a quand même une droitisation, on va dire, chez les profs, et qu'il n'y a pas beaucoup de réactions finalement quand même. Même, tu vois, quand on sait très bien que lors des blocus, il y a des violences. Donc les profs, il y a eu une période, se mettaient devant un peu pour protéger, parce que c'est leur rôle aussi de protéger leurs élèves. Et que il y a quand même de plus en plus, c'est pas si évident que ça, quoi. Dans les salles de classe, même lors de cet événement, il me semble que tous les profs n'étaient pas tout à fait, ils étaient plutôt du côté de la direction.
Alors, effectivement, il y a peut-être une droitisation des profs et puis une apathie un peu dans les salles de profs, effectivement, face aux mobilisations. Ça, c'est vrai, en partie, on le constate. Mais il y a également, en fait, un contexte croissant de répression des profs par l'institution. Depuis la loi Blanquer de 2019, dite loi de l'école de la confiance, en fait, les enquêtes administratives se multiplient et les mutations dans l'intérêt du service, entre guillemets, se multiplient, qui sont en fait des sanctions déguisées. Et il y a vraiment des sanctions et de la répression des enseignants qui les découragent aussi de se mettre aux côtés des élèves. Parce qu'on a vu les profs, effectivement, il y a une dizaine d'années, ils sortaient au moment des blocus, ils étaient là, en marge, mais pour éventuellement... observer, protéger, bien sûr. Et en fait, on a vu se multiplier les enquêtes administratives vis-à-vis, à l'encontre des profs qui soutiennent leurs élèves. Donc, c'est pas pour défendre les collègues. Il y en a effectivement qui sont du côté de la direction ou qui se sentent pas concernés et ils ont tort. Mais il y a aussi beaucoup de collègues qui ont une pression liée effectivement à cette répression qui se généralise depuis Blanquer.
Carrément. Je dirais même que depuis que les directeurs... j'allais dire de prison, vous voyez comme je suis. Les directeurs de lycée ou d'école sont devenus des supérieurs hiérarchiques et souvent presque des patrons de petites entreprises. Hein. Les choses aussi ont beaucoup, beaucoup changé, puisqu'avant, ils étaient complètement égaux au niveau hiérarchique.
Pas dans le secondaire. Dans le primaire, ça a toujours été effectivement notre hiérarchie.
Mais en tout cas, c'était moins flagrant, quoi. En tous les cas, ils n'appelaient pas les flics.
Voilà, nous, c'est ça. Nous, on met en cause leurs responsabilités parce que ça a toujours été des chefs et nous, c'est pour ça qu'on ne les syndique pas et qu'ils font généralement partie de nos adversaires. Mais par contre, effectivement, on met en cause leurs décisions systématiques, pour certains, d'appeler la police. Les établissements dans lesquels les chefs n'appellent pas, ça se passe bien. Donc ils ont cette responsabilité inacceptable.
Ben, on le voit dans les manifestations. Et souvent, quand on n'est pas nassé et que les flics qui interviennent, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, qui vont aux manifestations et qui peuvent se douter que, en général, quand il y a des flics, ça se passe pas bien.
Il y a une vingtaine d'années, on n'appelait pas la police, les blocus se passaient très bien.
Oui, carrément.
Oui, pour préciser, le blocus et l'entrée dans Hélène Boucher le 6 juin 2024, il a été organisé parce que l'année d'avant avait été organisé le même type de choses au lycée Victor Hugo, je crois, et ça s'était très bien passé. Il y avait eu discussion avec la direction et voilà, donc les jeunes gens du 6 juin n'avaient pas une seule seconde l'idée que ça allait se passer comme ça s'est passé.
On va faire une petite pause musicale, on revient après. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The
revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et on poursuit donc cette émission avec les parents du collectif contre les violences policières, plus par rapport aux lycéens, mais qui s'est élargi à la question aussi des violences faites aux jeunes. Hein, d'une manière plus générale, on vient de le voir. Et donc là, on avait envie de revenir avec vous. D'abord, je ne sais pas, vous vous êtes donné un nom.
C'est notre grande question du moment, mais en gros, nous sommes un collectif de parents indignés et nous souhaitons, et pour ce qu'on a mis en haut du communiqué, pardon.
Et ben voilà, des parents interpellent le rectorat et la préfecture de police de Paris face à l'escalade de la répression policière des manifestations lycéennes. Maintenant, on vous laisse le temps, hein. Vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Alors, on voulait revenir, ça fait un an. Là, on voit que vous avez quand même beaucoup travaillé à votre élargissement, à la compréhension de cette violence, d'où elle vient, comment elle se manifeste, etc. Vous avez essayé de trouver des complicités à droite, à gauche, syndicales, associatives, contacter d'autres parents, d'autres lycées. Enfin bon, voilà, il y a quand même un gros travail qui a été fait. Et dernièrement, vous avez fait une conférence de presse. Et vous avez porté plainte ou vous allez porter plainte. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis comme ça, on pourra parler des actions futures, hein, parce que je n'ai pas l'impression que vous avez envie de baisser les bras. Enfin...
Non, on est là, on va continuer.
Donc du coup, on était sur la conférence de presse.
Oui, et celle-ci est partie suite début juin. Le 4 juin, il y a eu un article publié dans le journal Le Monde. À partir de vidéos récupérées sur les téléphones des jeunes, téléphones qui avaient été mis sous scellés et qui ont été récupérés il y a peu de temps. D'accord. Du coup, suite à ça, les jeunes, et certains sont notamment affiliés à la MALA, Mouvement d'Action Lycéenne Autonome, ont sollicité le journal pour faire cette publication. Donc, suite à cette publication et à ces images... On avait envie de continuer et de soutenir le mouvement des jeunes.
Je rappelle juste quand même que dans ces images, on voit un policier avec une arme. Oui. Une arme à feu, quoi. Je veux dire,
tout à fait.
C'est incroyable.
Tout à fait.
Donc du coup, conférence de presse. Il y avait qui lors de cette conférence de presse? Pour voir un petit peu les gens avec qui, enfin, voilà, qui vous soutiennent.
Tout à fait. Sachant que nous, on est juste des parents, on est en train de découvrir tout ça. Du coup, on s'est rapproché de la LDH... de la FCPE également, qui ont aussi été présents il y a un an. Et l'idée d'organiser une conférence de presse, du coup, avec l'aide de la LDH, la FCPE était présente. Sud Éducation Paris était là également. Voilà. Et l'idée de cette conférence de presse, c'était de partir de cet article de presse, mais ensuite de généraliser sur la systématisation de la réponse répressive, de dénoncer un petit peu ça et aussi de demander un rendez-vous auprès de la préfecture de police et du rectorat pour demander des comptes, pour dire mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est la volonté? Enfin voilà, essayer d'ouvrir un dialogue, d'avoir des réponses. L'autre chose, c'est que suite à la parution de l'article du Monde, il est apparu un petit peu évident à l'une des avocates qui nous avait accompagnées de la plainte. Parce que ça venait montrer 5 circonstances aggravantes, de violences aggravées. Les 5 circonstances qui sont violences sur mineurs, en réunion, par des dépositaires de l'autorité publique, sous la menace d'une arme et dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Le gazage en lieu clos est interdit. Voilà. Du coup, cette conférence, c'était l'occasion d'aborder un petit peu tout ça. Et avec la LDH, il est aussi question de saisir la défenseure des droits de l'homme, peut-être sur ce côté plus systématique de la réponse répressive apportée lors de ces mouvements lycéens.
Tout ça, en fait, c'est très, très frais. Hein. C'est ces derniers jours que ça s'est passé. Donc, vous allez porter plainte et vous êtes assisté d'un avocat militant, j'imagine, sur cette plainte.
Oui, tout à fait. Et on est en train de... L'idée, c'est d'organiser un petit peu tout ça, parce que comme ça concerne, en tout cas, pour l'occupation d'Hélène Boucher, des lycéens qui venaient de différents établissements, 48 jeunes interpellés. Du coup, il y a une petite organisation logistique à faire, à coordonner. Tout ça est en train de se mettre en place, sachant qu'on a tous des boulots à côté et bah, que du sûr. Coup, ça prend du temps, de l'énergie. Et aussi, ça nous replonge dans le vécu de l'année dernière, qui, le mois de juin, est une période où les lycéens passent des épreuves.
Les examens, oui.
Les examens. Du coup, tout ça secoue un petit peu tout le monde, et y compris les lycéens.
D'accord. Mais en tous les cas, voilà, de toute manière, vous avez carrément le temps. Parce que là, on voit le travail que vous avez pu effectuer depuis un an. Toutes ces enquêtes, c'est de trouver des informations, élargir vos connaissances sur le sujet, vous ouvrir. Donc le travail reste à faire. Il y a la rentrée, il va y avoir peut-être aussi d'autres mouvements sociaux, il va y avoir d'autres choses. Et,
oui, et à cette heure, si je ne me trompe pas, les demandes de rendez-vous au rectorat et à la préfecture de police sont parties.
Oui, D'accord. De toute manière, une chose est claire, on se reverra. Comme ça, vous nous ferez un petit compte-rendu de ce que vous avez, de l'évolution des plaintes et de votre combat. On voulait aussi parler du fait que dans les mineurs, évidemment, et vous l'avez dit dans votre lettre, mais c'est toujours bien de le préciser, il y a aussi cette idée de s'ouvrir sur les lycées de banlieue. Hein, qui sont souvent où la violence est encore plus aiguë quand il s'y passe quelque chose, quand il y a un mouvement, j'ai l'impression que là c'est total débridage, donc c'est intéressant de pas aussi les laisser tomber. Il y a des parents qui essayent de faire des choses, par exemple sur Mantes-la-Jolie, etc., et qui peut-être manquent de force et le fait de pouvoir se regrouper. Vous l'avez toutes dit, hein, c'est-à-dire le fait que les élèves se bougent, ils sont organisés au sein de la MALA, le fait qu'il y ait un syndicat, le fait la LDH, le fait qu'il y ait des gens extérieurs, tout ça donne de la force et il ne faut pas le négliger. Et pour des parents qui sont peut-être un peu plus isolés, ça peut être important. Voilà. Et puis, il y a aussi les mineurs isolés, hein, leur lutte absolument exceptionnelle jusqu'à la gaieté lyrique. Et puis là, la volonté de se recomposer, ce n'est pas évident puisque là, ils n'ont pas encore d'espace pour s'auto-organiser. Mais ils demandent aussi à être scolarisés et on leur dénie ce droit fondamental. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
Oui, pour nous, à Sud Éducation Paris, c'est très important, effectivement, de lier cette répression des mouvements lycéens à, en fait, la répression de la jeunesse en général, répression qui a commencé depuis bien longtemps dans les quartiers populaires, parce que les quartiers populaires sont toujours les laboratoires des politiques sécuritaires, autoritaires des gouvernements. Dès le début des années 2000, hein, les jeunes des quartiers populaires sont violentés. Hein, on pense à Ziyed, Bena et Bouna Traoré en 2005, hein, qui meurent électrocutés dans un transformateur électrique. 2018, Mantes-la-Jolie, la classe qui se tient sage. En fait, ce qui se passe aujourd'hui sort et déborde des quartiers populaires, mais ça fait effectivement des années que la police, entre guillemets, s'entraîne dans les quartiers populaires dans une violence assez débridée. Et effectivement, avec des familles qui n'ont peut-être pas aussi les ressources pour résister. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de faire converger les luttes, de faire converger les résistances. Et effectivement, actuellement, on voit une répression terrible de la mobilisation des jeunes mineurs isolés à Paris qui sont sans scolarisation, sans toit. Donc vendredi dernier, là, le 20 juin, il y avait une mobilisation nationale pour le droit à l'école avec un rassemblement devant la Sorbonne du collectif des jeunes du parc de Belleville. Et ces jeunes, effectivement, ont subi une expulsion ultra violente de la gaieté lyrique occupée à la fin de l'hiver. Et puis, à l'issue de cette expulsion, ça a été une chasse à l'homme dans les rues de Paris, une traque terrible, une violence policière terrible contre ces jeunes, et également, des dénis de minorité. Plusieurs jeunes dont la minorité avait été reconnue, les dates de naissance ont été modifiées par la préfecture et des jeunes ont reçu des OQTF. Donc il y a une répression de ces jeunes mineurs non accompagnés qui, se sont organisés, ils sont admirables parce qu'effectivement ça reste des enfants, ils sont admirables, on a tellement de leçons à apprendre de ces jeunes. Nous, notre syndicat est à leur côté, mais c'est eux qui mènent la lutte et c'est important d'en parler parce qu'en fait, à la gaieté lyrique, qui a réagi médiatiquement ? Quand on a expulsé l'église Saint-Bernard en 1996, ça a été un scandale médiatique. Quand on a expulsé les jeunes de la gaieté lyrique,
pas demander aux médias Bolloré et compagnie de se pencher sur le petit peuple quand même. Donc on voulait parler des mineurs, mais on voulait aussi parler de toute cette jeunesse délinquante qui n'est pas forcément... parce qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont exclus du système scolaire. D'ailleurs, bien avant 16 ans, ce qui est quand même théoriquement impossible en France. Et qui se retrouvent à galérer, quoi. Et puis qui, peuvent basculer vers la délinquance et qui sont extrêmement réprimés, non pris en charge. Il y a très, très peu maintenant de possibilités hors répression de prise en charge un peu conséquente de cette jeunesse laissée à l'abandon. Donc c'est aussi intéressant que vous joigniez ces jeunes-là aussi à votre combat. Et ne pas oublier, ça je vous laisserai un peu le mot de la fin, que la jeunesse c'est l'espoir de demain, hein, on en a parlé au début, et c'est vraiment hyper, hyper important de leur laisser de l'espace, de la respiration, de l'intelligence, de la concertation, de l'organisation, pour qu'ils nous construisent un monde un peu moins pourri que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et que là, on assiste à tout l'inverse, quoi. Il y a vraiment une volonté de compresser, d'enfermer, de restreindre pour justement qu'aucun avenir soit possible. Donc peut-être on peut finir, vous, ce que vous avez à dire par rapport à ça. Et puis dire surtout que le combat, il va continuer, hein, que ça ne s'est pas arrêté à cette plainte, que ça va continuer et qu'on se reverra sûrement à la rentrée et que c'est vraiment super important que vous ayez construit cette intelligence et ce soutien et pour vous, pour vos enfants, pour l'avenir, pour tout ça. Et c'est vachement, vachement important.
Tout à fait. J'ai envie de parler de la réponse institutionnelle répressive qui est faite aux jeunes. Comment les jeunes peuvent continuer à avoir confiance et à y croire? Eh ben, en tout cas, j'ai envie de faire partie de ces adultes qui pourraient leur donner encore un petit peu d'espoir. Sachant qu'on a aussi beaucoup à apprendre et à s'inspirer de la jeunesse. Parce que pour ce qui s'est passé il y a un an, eux étaient bien plus au fait de leur protection, de savoir comment se comporter que nous. Nous, on a tout découvert, nos jeunes, ils savaient déjà.
Je confirme.
C'est sûr qu'il y a, c'est comme le maître ignorant, enfin on a à s'apprendre les uns des autres. Il ne faut pas oublier que chaque partie a une partie de la connaissance. Et que...
Il faut préciser aussi que dans le projet d'établissement du lycée Hélène Boucher est écrit en gros que le but est d'apprendre aux lycéens à être citoyens. Mmh. Et donc ça pose fortement question
peut-être.
Vu la répression qui leur empêche de devenir citoyens, qui les empêche de devenir citoyens.
Ça dépend quelle définition tu donnes au terme citoyen. Si c'est baisser la tête et aller voter une fois tous les 36... Je pense qu'ils sont à fond dans les clous, là. Mais si c'est en faire des êtres libres, conscients, participants, etc., là, on est très, très, très loin du compte, effectivement. Et un mot de la fin, peut-être ?
Oui, bah effectivement, ça fait partie des consignes de l'éducation nationale, de développer l'esprit critique. Et moi, je pense que effectivement, l'école, fille et servante du capitalisme, l'école aujourd'hui apprend bien plus l'obéissance que l'émancipation. Nous, effectivement, on défend l'émancipation des jeunes, et effectivement, l'avenir ne passera aussi que par leur auto-organisation. Il faut leur faire toute la place, effectivement, qu'ils méritent et dont nous aussi on a besoin. Voilà.
C'est fou, je vois qu'on a une minute, donc je me permets. Mais dans les années 70, suite au grand mouvement étudiant et lycéen qu'il y avait eu dans les années 60, les lycéens avaient obtenu d'avoir 10% du temps autogéré. Incroyable à imaginer aujourd'hui. Ils avaient réussi à obtenir un panneau d'affichage politique au sein de l'établissement, ce qui paraît le minimum. Mais on rêve. Mais aujourd'hui, on rêve. Nous, on occupait les lycées et jamais un flic était rentré. Je veux dire, on faisait des AG dans les couloirs avec tout le monde. On rentrait dans les classes pour dire « c'est l'AG, tout le monde dehors ». Enfin, et c'est vrai que on sent l'univers qui se referme, quoi. Et qui, l'idée, c'est vraiment de nous laisser seuls face à nous-mêmes contre l'État, contre le pouvoir. Et voilà. En tous les cas, c'est super parce que ces jeunes, comme tu disais, ils ont bravé. Les interdits savaient très bien qu'aujourd'hui, avoir une position contre le génocide de la Palestine, ça devient un truc incroyable. Enfin, ils y ont été quand même, et c'est du courage, et c'est bien d'être à leur côté.
Tout à fait. Eux, ils sont allés. Suivons-les.
Exactement. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans les studios. Vraiment merci. Super. Merci.
Merci.
Et puis, la rentrée, vous n'hésitez pas. On fait un point comme ça sur l'évolution de vos activités. Merci beaucoup. Et puis, pour les auditeurs, c'est à demain pour une nouvelle actualité des luttes. 12h30, 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Bonne journée.
Info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.